Petit extrait du livre, La clé scientifique des manifestations surnaturelles. Dr. Francis Lefebure. Édition Phosphénisme. Avant-propos. Cette étude, sur les véritables, origines des apparitions de Lourdes, n'est pleinement compréhensible, qu'à ceux qui ont déjà lu nos ouvrages Mixage phosphénique en pédagogie et Phosphénisme et origines des religions, Développement de la voyance, par le phosphénisme au moins, et qui ont quelque expérience de la pratique du phosphénisme. Pour permettre au lecteur, qui n'aurait pas fait cette étude préliminaire, une première approche des arguments qui suivent, nous résumons néanmoins ces deux ouvrages. Le phosphène et la tache multicolore, qui persiste en obscurité pendant 3 minutes, après fixation durant une trentaine de secondes d'une source lumineuse. Le mot « phosphène » a été créé en 1838, par le naturaliste Le Lorgne de Savigny, Dictionnaire des termes techniques de médecine Garnier de Lamarre. Édition Malouane, pour désigner une famille de vers luisants fort répandus en France. Plus tard, il a été employé au sens figuré, par des physiologistes à cause de la très grande ressemblance, entre la lueur du vers luisant dans la nuit, et la couleur de la première phase de l'image consécutive à un fort éclairage, qui se détache sur un fond visuel obscur. La définition du litré est la meilleure de toutes. Sensation lumineuse subjective. Ajoutons que ce phénomène a été utilisé instinctivement par tous les peuples à un certain stade de leur évolution, dans les cultes du soleil, qui associaient la prière à la fixation du soleil. Il en est encore ainsi chez les Zoroastriens, dont les prêtres s'appellent mages. La magie, au sens originel du terme, est donc une science des phosphènes qui s'est perdue. De même, les enfants bergers prennent souvent l'habitude de jouer avec les phosphènes, et mélangent des prières. Or, tous les principaux faits de l'Église romaine, ont eu à leur origine des enfants bergers. D'autres enfants utilisent instinctivement le reflet du soleil sur l'eau. Ce fut le cas de la poétesse Minou Rouet, qui fut un très jeune prodige. On trouve aussi des pêcheurs, qui ont acquis un certain don de voyance, en priant pendant leur travail, avec le reflet du soleil sous les yeux. À la naissance du Christ, étaient présents les bergers et les mages, les deux grandes catégories de spécialistes des phosphènes de l'Antiquité. De plus, le Christ alla d'abord chercher 4 pêcheurs du lac de Tibériade, pour commencer son prêche. Le phosphénisme a donc joué un rôle considérable dans la naissance du christianisme. Mais ceci est vrai aussi en ce qui concerne la religion de Mithra, où le futur initié, devait observer les phosphènes dans une grotte. On retrouve également leur usage chez les Tibétains, qui possédaient dans chaque temple un livre, sur l'interprétation des signes, qui apparaissent quand on fixe le soleil. Les sorciers pygmées, eux, fixent une flamme pour voir où est le terrain giboyeux, et il arrive assez souvent qu'un explorateur à côté d'eux ait la même vision au même moment, en raison de la très grande transmissibilité télépathique des phénomènes phosphéniques. Le phosphénisme est donc une révolution idéologique mondiale. Autre petit extrait. Grand 5. 2 causes majeures probables de la phosphénisation, de la pensée de Bernadette. Grand A, la prière durant la fixation du soleil. Bernadette prie dans un paysage particulièrement ensoleillé et brillant. Cela nous intéresse plus spécialement, car le rapport avec le phosphénisme commence ici, avec le paysage dans lequel elle faisait paître son troupeau. Jean Lasserre nous signale que c'était, sur des coteaux tournés vers le sud, face à la chaîne des Pyrénées. Je me suis rendu à Bartrais sur ces lieux mêmes, aussi je ne puis qu'insister sur ce point et développer la pensée de Lasserre. D'après les renseignements que j'ai eus par une parente encore vivante de sa nourrice, la colline entière sur laquelle est encore située sa bergerie appartient toujours aux descendants de la famille de cette nourrice. Aujourd'hui, le pâturage y est limité aux alentours de la bergerie. Des haies le séparent des voisins, peut-être en partie, par crainte des visiteurs indiscrets. Le pâturage qui restait bien trop petit pour un troupeau, et tout porte à croire qu'alors, il s'étendait sur toute la moitié de la colline. Au sommet de la colline, il y a un calvaire, entouré d'un petit bois et au nord, des habitations dans des jardins. Or, cette colline a la forme d'une énorme olive, dont le grand axe serait orienté presque en plein sud. Du matin au soir, Bernadette gardait donc ses moutons, sur un véritable solarium. Grand B. Prière associée à la fixation de brume très brillante. De plus, la chaîne des Pyrénées est très visible. Une grande partie de l'année, tous ces sommets sont couverts de neige. Le Vignomale est coiffé de neige éternelle. Mais j'ai été plus particulièrement frappé par le fait suivant. À cause du recul, les chaînes de montagne apparaissent, pour ainsi dire, comme si elles étaient découpées dans du carton, disposées sur des plans différents, comme le seraient ceux d'un décor de théâtre, c'est-à-dire assez rapprochés. Les brumes s'accrochent dans les vallées, et entourent les pentes des montagnes. Au-dessus, le soleil, dans un ciel pur, donne une brillance exceptionnelle à ces brumes. Grand 1. Le sorcier mexicain utilise aussi la brillance des brumes pour ses initiations, qui ne sont que quelques phénomènes phosphéniques. Carlos Castaneda, cet Américain qui a suivi les enseignements d'un sorcier mexicain, raconte que celui-ci lui faisait parfois fixer un nuage brillant, jusqu'à ce que ce dernier paraisse devenir vert. Et qu'alors une vision pouvait apparaître dans cette couleur. C'était évidemment la face verte du phosphène, le voyage Extlan page 123. Bernadette était placée de la façon la plus idéale, pour opérer l'instinct comme ce sorcier. Faire des phosphènes avec des brumes tout particulièrement brillantes. Nous rappelons que les manifestations de voyance ne sont pas, le plus souvent, concomitantes aux phosphènes, mais au contraire surviennent en dehors des séances, et après un certain entraînement. Si cette habitude de prier en fixant le soleil, est si répandue dans les populations paysannes pieuses, c'est parce qu'elle est instinctive. Une Hongroise me disait récemment, qu'encore actuellement en Hongrie, malgré le communisme, et sans y mettre l'idée de résistance, mais simplement par la perpétuation d'habitudes ancestrales, beaucoup de paysans, lorsqu'ils arrivent dans leur champ, commencent la journée, si le ciel est clair, par la prière associée à la fixation du soleil. En France, en 1955, certains paysans champenois avaient encore cette habitude. Grand 2. Certains enfants utilisent un mur blanc. Il en faut moins qu'on ne croit pour déclencher la voyance chez les enfants par des effets phosphéniques involontaires. Puisque nous venons de parler d'une coutume encore en usage de l'autre côté du rideau de fer, citons un autre cas. Une dame tchécoslovaque m'a raconté que, quand elle était enfant, vers 10 ans, elle avait remarqué qu'elle avait des dons de voyance, d'intuition et avait des rêves prémonitoires. Mais, à cause de l'ambiance politique de ces pays, qui se répercute jusque dans la vie familiale, et empêche l'éclosion de tout ce qui va vers le spirituel, elle n'avait jamais osé en parler à personne. C'est en France que, par hasard, elle a lu quelques passages au sujet des rapports entre voyance et phosphénisme. Elle comprit alors pourquoi elle avait présenté ce don, et vint me le raconter. En effet, sa table de travail où elle faisait ses devoirs, et apprenait ses leçons en rentrant de l'école, était devant la fenêtre. De l'autre côté de la cour, il y avait un grand mur très blanc, sans ouverture et bien exposé au soleil, qui lui barrait complètement la vue. Il lui plaisait de se réciter mentalement ce qu'elle venait d'apprendre, tout en fixant ce mur. Elle avait pris cette habitude depuis sa plus tendre enfance. Mais elle n'avait jamais saisi le rapport avec ses dons intuitifs et ses rêves prémonitoires. La voyance est donc beaucoup plus une question de circonstances pendant l'enfance que de dons. Grand 3. Sensibilité des populations des oasis aux fluides phosphéniques. Au Maroc, par exemple, certaines fermes sont assez isolées, entourées, à distance, de zones pierreuses blanches très réfléchissantes, et les nuages sont rares. J'ai observé qu'un tel développement de la voyance à cause de la luminosité du paysage se rencontre assez facilement. Je l'ai même trouvé chez des Européens revenus en France, mais qui avaient passé leur enfance dans ces conditions. C'est seulement en parlant avec moi, qu'ils ont compris le rapport entre leurs dons, dont ils étaient eux-mêmes étonnés, et des circonstances anciennes. Dans les régions semi-désertiques du sud algérien, j'ai observé que se réussissent assez souvent l'expérience indiquée dans Magnétisme personnel d'Hector Durville, faire retourner une personne en la regardant, dans le dos ou à la nuque, avec insistance, et en lui répétant mentalement cet ordre. Cela m'avait étonné car, en France, je ne l'avais jamais réussi. Si je ne me suis pas trompé, car le nombre d'expériences que j'ai faites n'a pas été suffisamment grand, pour que je sois catégorique, Cela pourrait provenir de ce que l'habitude de réciter les prières musulmanes devant les sables éblouissants du désert donne à toutes ces populations une plus grande sensibilité à cette combinaison entre la pensée et le phosphène. J'ai appelé sel phosphénique le résultat de ce mélange, qui est en fait un fluide dense. Grand 4. Bernadette utilise les brumes au-dessus de la chaîne des Pyrénées. En raison de son éducation, ce fut des prières catholiques que Bernadette mêla à ses éblouissements de cause naturelle, mais le mécanisme qui éveilla chez elle une certaine forme de voyance fut le même. L'association de la prière avec les actes de la journée en plein air, association qui amène plus ou moins de voyance, du fait qu'au cours de certains gestes durant cette prière, le regard va croiser le soleil ou les nuages vivement éclairés, est probablement la cause des prétendues légendes au sujet des esprits de la nature dans les pays germaniques. Elfes, sylphes, lutins. Ces esprits des éléments étaient vraiment perçus parce qu'une grande partie de la population avait un certain degré de voyance du fait de son genre de vie. Dans l'initiation de Pietro, j'ai raconté comment une fois, à l'âge de 17 ans, j'ai perçu des esprits de la nature, dans des conditions comparables à celles que je viens d'expliquer. Une brève enquête m'a permis de constater chez les bergers des Pyrénées une certaine tradition des caractères bienfaisants des phosphènes. Il n'est donc nullement invraisemblable que quelques collègues de passage aient enseigné à Bernadette à utiliser cet aspect de l'éclairage solaire, car encore maintenant ils l'enseignent parfois hors de leur corporation à des touristes. Nous en avons eu le témoignage, entre autres, par M. Gilbert Garrigue, Art et Tradition Populaire des Pyrénées, 65410 à Roncolin, Val d'Or. Il nous faut donc replacer la petite bergère de Bartrais dans le contexte éternel de la vie de berger, au travers des civilisations qui se succèdent. Il nous faut l'extraire du réseau d'interprétations tendancieuses qui a été tissé autour pour que l'argent des quêtes des quatre basiliques géantes de l'eau de Partarome, au lieu de rester dans le pays, qui a donné naissance à cet enfant. Revenons à Lasserre, un des meilleurs historiens de Bernadette. Celui-ci insiste sur les goûts de poète de l'enfant, qui se plaisait à regarder des journées entières cette chaîne de montagnes. Or, elle priait sans interruption dans ce paysage si brillant. Elle faisait donc du mixage phosphénique sans le savoir, comme les enfants de Fatima, qui priaient en fixant le soleil, et comme tous ceux qui ont développé leur vraie voyance. Jean Lasserre a même une phrase prophétique à ce sujet, opus cité, page 24. Qui nous dira tout ce que peut apporter de bienfait ce regard de notre sainte, tombant sur le paysage qu'elle aimait? Eh bien voilà, c'est nous qui le disons. Il lui apportait les bienfaits du mixage phosphénique, même pratiqué involontairement par suite de circonstances fortuites. Et toute la région en a bien profité par les cohortes de pèlerins. Nous avons donc déjà deux causes qui permettent de supposer que Bernadette faisait du mixage phosphénique sans le savoir. La rotonde disposée en solarium, où elle faisait paître ses moutons, et la brillance des brumes accrochées par les Pyrénées au sud, que le soleil surplombait. Grand 5. Le phosphénisme dans l'Antiquité. Le cas de Bernadette n'est pas isolé dans l'histoire. Bien au contraire, dans tous les peuples, il y eut des périodes où ce mélange entre la pensée et les phosphènes influença grandement l'évolution de leur civilisation. Surtout lorsqu'un rudiment de science se développa autour de cette pratique courante et instinctive chez les populations vivant en plein air. Les anciens savaient bien que travailler dans un paysage particulièrement ensoleillé pouvait, chez certains enfants, développer la voyance, même si l'on peut douter qu'ils en aient toujours analysé la cause, c'est-à-dire le mélange involontaire entre la pensée et les phosphènes. Car ce n'est pas sans raison que les Grecs avaient fait de Phoebus, dieu du soleil, également le dieu de la divination. D'Apollon, autre nom du dieu solaire, le dieu des oracles et de l'enthousiasme divinatoire. Grande encyclopédie. Lorsque le Christ a dit « Je suis le bon pasteur », il n'ignorait sans doute pas que dans un pays bien proche, cela signifiait « Je suis Apollon, dieu du soleil ». Car Apollon était souvent représenté comme le bon pasteur portant sur ses épaules la brebis égarée. L'étude des mystères de l'Osis donne à penser que les Grecs n'ignoraient point le rapport entre les phosphènes et le don de voyance, puisque le candidat à l'initiation devait pénétrer dans un couloir obscur, avec un bandeau sur les yeux. Il y avait pourtant la lumière de torches dans ce tunnel. Par moments, on lui ôtait le bandeau, et il devait observer les lumières, puis on le remettait. Il devait alors se représenter un épi de blé, symbole de fécondité. En insistant, cet épi devenait l'illuminateur, d'après Mania. Les mystères de l'Osise. C'est donc bien le mélange entre la pensée, ici l'épi de blé, et le phosphène après que le bandeau ait été remis sur les yeux, qui provoque une illumination de nature spéciale. C'est dans la période où les mystères de l'Osise battaient leur plein, et où de nombreux étrangers recevaient cette initiation, que le rayonnement intellectuel de la Grèce marqua la civilisation antique, et que la Grèce produisit le plus grand nombre de génies dans tous les domaines. Or tous ces grands hommes étaient passés par les mystères de l'Osise, c'est-à-dire qu'ils connaissaient la pédagogie phosphénique, qui donne parfois au cerveau un élan inimaginable. Nous avons repris et développé les rapports entre phosphénisme et les mystères de l'Osise, dans la deuxième partie du livre Le Pneumophène, ou la respiration qui ouvre les portes de l'au-delà. Grand 6. Différence entre la vision phosphénique et l'hallucination. Précisons d'abord la différence entre une image mentale, qui s'est chargée de phosphène, et une hallucination. Il faut bien comprendre que la pensée phosphénisée n'est pas une hallucination, ni dans le sens courant du terme, ni dans son sens médical. Elle en est tout le contraire. Car le mot « hallucination » possède un sens péjoratif dans le langage courant. Médicalement, elle ne se produit qu'en cas de trouble cérébral, et est d'ailleurs souvent une cause objectivable, comme une tumeur cérébrale, ou des variations pathologiques d'une des composantes du sang. Donc, celui chez qui surviennent des hallucinations est, toute chose égale d'ailleurs, dans un état inférieur à la normale. Par contre, il est facile de constater que celui qui phosphénise sa pensée sans le vouloir, soit complètement accidentellement, soit en suivant le fil de son instinct, ou mieux encore, d'une façon méthodique, en pleine connaissance du principe, amène vite son cerveau à un état supranormal, tous les autres organes restant, dans leur état normal. Entre autres, le don d'intuition que provoque cette pratique, qu'elle soit instinctive ou faite sciemment, met le sujet en harmonie, avec les grandes forces psychologiques des masses. Cela explique que de tout temps les adeptes du phosphénisme, même sans le savoir, aient servi de germe de cristallisation, pour de grands courants humains. C'est exactement ce qui s'est produit à Lourdes. Nous ne pouvons donc pas partager le point de vue de M. Albert Beaujon qui, dans Lourdes, vie dramatique de la gentille Bernadette Soubirou, se contente de la traiter, d'halluciner. C'est escamoter le problème. Dans le même ordre d'idées, disons que le livre de Gérard de Cèdre, Fatima, Enquête sur une imposture, ne mérite même pas discussion. Sa façon de présenter les choses, plus qu'un simple escamotage, est un procédé particulièrement odieux, ce qui prouve qu'il y a autant de parti pris d'un côté que de l'autre. En effet, il ne parle d'aucun des témoignages classiques à propos de la danse du soleil, ni de celui de ce professeur de science, qui était sur son balcon, par hasard et qui a dit « J'ai vu, mais je n'explique pas », ni de cet autre d'un directeur de journal antireligieux venu à l'annonce du miracle pour tout dénigrer, et qui est reparti tellement enthousiaste, après avoir vu la danse du soleil, que ses collaborateurs ont exigé sa démission. Et combien d'autres ont ainsi été omis? Si ces témoignages sont faux, alors que Gérard de Cèdre le prouve, mais ne pas les citer, parle en faveur de leur exactitude, gênante pour sa position. Sur ce point, il faut rendre justice à l'Église romaine. Elle a fait des enquêtes très sérieuses, et objectives sur les faits, en particulier celle du chanoine Barthaz. Gérard de Cèdre se contente d'attribuer à l'humidité de l'air les mouvements anormaux du soleil, ce qui de toute évidence, est sans fondement expérimental. Les mouvements observés à Fatima et dans plusieurs autres danses du soleil, comparables, sont d'une autre amplitude, d'une bien meilleure régularité, et se déroulent toujours dans le même ordre, ce que ne peuvent donner des variations d'indice de réfraction suivant les courants d'air. Dans l'initiation de Pietro, nous avons consacré plusieurs pages, pour montrer qu'il s'agit de mouvements phosphéniques. Nous allons voir maintenant deux autres causes encore plus importantes. Fin des extraits. Retrouvez, L'intégralité du livre audio, sur le site phoenixme.com.